Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 3. Il y avait, dans un endroit assez solitaire de Rome, un édifice que M. de Galando aimait beaucoup. C'était un gros bloc rond de maçonnerie entouré de colonnes à chapiteaux qui soutenait le pourtour d'un toit en champignons. Une petite place irrégulière s'étendait là, pavée de grandes dalles herbues. Une fontaine y murmurait à l'écart. Elle se composait d'un bassin circulaire d'où émergeait une rocaille sur laquelle deux monstres marins enlaçaient leurs queues écailleuses et, nus, haussaient de leurs mains levées une coquille. Ces deux figures de bronze étaient élégantes et souples, sans fatigue en leurs doubles gestes immobiles. L'eau retombait autour d'elles de la haute vasque. Des pigeons s'y posaient pour y boire. Leur col chatoyant se gonflait de plaisir. Puis, ils s'envolaient doucement et allaient se percher sur le toit de tuiles tièdes du petit temple d'où ils roucoulaient. M. de Galando s'asseyait sur le rebord du bassin ou sur l'une des bornes inégales qui l'entouraient. Il comptait les allées et venues des pigeons et écoutait la fontaine. Ses tuyaux engorgés râlaient d'une façon rauque et douce. Elle était presque intermittente, semblait faillir ou s'accroître à intervalles réguliers. M. de Galando connaissait si bien son bruit familier que parfois il l'entendait la nuit dans son sommeil. Il venait là, de préférence, au déclin du jour. Peu à peu, le soir arrivait. Les figures de bronze semblaient se raidir. La dentelure de la haute coquille se dessinait noire sur le ciel encore clair. Une dernière colombe roucoulait une dernière fois. Alors, M. de Galando se levait pour rentrer chez lui. Il avait achevé sa journée. Il passa plusieurs années ainsi, sans qu'aucune vînt apporter à sa vie aucun changement autre que celui des saisons. Il avait déjà usé 5 de ses 12 habits qu'il avait achetés à Paris et autant de perruques. Quand les coutures blanchissaient, que l'étoffe s'élimait, que les coudes se trouaient, il ouvrait une de ses caisses de voyage, toujours rangée le long du mur, et il en tirait un nouveau vêtement, en tout point semblable au précédent. La vieille Barbara recueillait avec soin la nippe de rebut. Elle la pendait dans un cabinet noir et venait parfois, avec ses ciseaux, y couper un morceau d'étoffe dont elle avait besoin pour quelque usage domestique. Quant aux vieux souliers que laissait son maître, elle en faisait des mangeoires pour sa volaille. On les retrouvait dans la cour, à demi pleins de graines, tandis que des perruques retournées de M. de Galando, elles se servaient comme de nids à faire pondre les poules ou couver les pigeons. Tant de régularité à une vie si médiocre, une dépense presque nulle, n'avait point empêché M. de Galando d'aller lever chez M. d'Alphy une partie des sommes que son intendant y faisait parvenir de France. Après en avoir distrait le peu qui lui en était nécessaire, il rangeait méthodiquement le reste dans les amphores de terre cuite que lui avait trouvé Barbara et qui garnissaient une longue planche placée au-dessus de son lit. Chacune avait maintenant un ventre plein d'or. Barbara ne se doutait guère de ce que contenaient leurs panses rebondies. Sans cela, elle en eût perdu le repos et le sommeil, par crainte des voleurs, car les portes fermaient mal, malgré leurs grosses clés, et la villa, à l'écart, dans un quartier de jardins et de vignes, était assez isolée. Mais elle semblait si vide et si délabrée qu'il ne fut jamais venu à l'idée de personne qu'elle pût receler autre chose que de la poussière et des toiles d'araignée. M. de Galando, ne se mêlant à rien ni de rien, vivait donc tout à fait inconnu. Personne ne s'occupait de lui. Rome lui donnait entièrement ce qu'il désirait d'elle, le repos et la liberté. Il avait même perdu peu à peu le goût des antiques, auquel naïvement, lui-même, il attribuait la raison de son voyage, car M. de Galando n'allait pas loin dans ses pensées et se contentait des plus immédiates, et il croyait de bonne foi avoir fait un voyage de curieux. L'utile manie que l'abbé Hubertet et ses amis lui avaient inventée, au lieu de s'accroître parmi les vestiges d'un passé où il l'eût pu satisfaire, avait diminué au point de presque disparaître de son esprit. L'urne de bronze vert, trouvée au sortir de la porte Salaria, qu'il avait envoyée à l'abbé, semblait avoir emporté en elle les cendres de Galando l'antiquaire, et la meilleure preuve en paraissait bien au mépris avec lequel il avait fait des poteries de la vieille Barbara de commodes bourses d'argile. Ainsi donc, M. de Galando se trouvait-il plus oisif et plus en raison d'être que jamais, et sa vie risquait bien, au train qu'elle prenait, de s'achever sans qu'il eût su, non pas certes à quoi la faire servir, mais à quoi même l'employer. Il n'avait vraiment part à rien. La religion même, qui est une occupation, lui manquait. Il ne fréquentait les églises que pour s'y abriter les jours de pluie et de vent. Il se tenait en dehors de toute pratique. Le séjour à Rome ne changea rien à cette coutume. L'abbé Hubertet, qui avait connu Nicolas, en sa jeunesse, fort exactement assidu au sacrement et plus que bon chrétien, ne pouvait, à le voir ainsi, s'empêcher de dire familièrement, en haussant un peu les épaules, que, quand on était comme Nicolas, ce n'était guère la peine de ne point croire en Dieu. Entendant sans doute par là qu'il était vraiment regrettable et presque superflu de ne pas profiter de ce que le défaut de toute passion vous rende le salut si facile et de se priver ainsi délibérément de tant de chances qu'on a de faire aisément le sien. S'il restait étranger au plaisir particulier, il ne recherchait pas davantage ceux que procurent en commun les jeux du théâtre ou les pompes publiques. De même, il se tenait loin des joies citadines. Il en craignait le bruit et le sans-gêne. Il détestait la foule qui se presse au passage des processions et la cohue qui escorte les mascarades. Il fuyait également le chant des cantiques et les cris du populaire. Son aventure du carnaval lui demeurait dans la mémoire et, de temps à autre, il s'informait auprès de Cozzoli si le temps des masques n'allait pas bientôt revenir. Cozzoli le rassurait. Il avait pris M. de Galando en grande considération depuis qu'il le savait riche. Il l'avait rencontré une fois chez M. Dalfi en y rapportant de l'ouvrage. Cozzoli apprit là que si M. de Galando tenait à Rome un état fort modeste, il en eût pu occuper sans peine un plus considérable et parcourir en carrosse les rues qu'il arpentait de son pas dégingandé. Là-dessus, Cozzoli surbroda, car son imagination le portait à tout exagérer, et il eut bientôt fait d'arriver à croire, plus qu'à moitié, que M. de Galando jouait quelque rôle déguisé et accomplissait quelque mission secrète. Non, bien au fond, qu'il y crût réellement, mais son esprit chimérique le poussait à s'en persuader. Cette rêverie plaisait à sa divagation naturelle. Aussi, tantôt traitait-il M. de Galando avec le respect qu'on doit à un personnage d'importance, tantôt avec la familiarité qu'on se peut permettre envers un bonhomme inoffensif, hétéroclite et extravagant.